16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages qui ont tenu la corde. Après Édouard Alfred Martel et Dennis Rader, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'un tandem d'alpinistes qui ont tenu la corde, mais qui l'ont lâché aussi à un moment.
Ne spoilez pas, Stéphane. Mais oui, si leur histoire a inspiré d'innombrables livres et même plusieurs films, c'est qu'il s'est passé des trucs au cours de leur expédition en 1985 dans la cordillère des Andes. Je vous raconte aujourd'hui l'aventure de Simon Yates et Joe Simpson. Nous sommes donc au Pérou en 1985. Deux alpinistes anglais, donc par définition sur deux, entament l'ascension du Sula Grande, 6300 mètres de roches piégeuses réputées pour ses avalanches fatales. Simon et Joe ont 21 et 25 ans. Ils sont athlétiques. Visiblement, la Smartbox sensation forte et canyoning dans les gorges du Verdon qu'ils ont eu à Noël n'a pas étanché leur soif d'aventure. Joe Simpson écrira bien des années plus tard dans son livre La mort suspendue: « Je n'aime pas l'alpinisme parce que c'est dangereux ou effrayant, mais parce qu'il y a un prix à payer si vous vous trompez. » Et oui Stéphane, la montagne ça vous gagne, mais parfois aussi ça vous perd. Au pied du Sula Grande, ils sont en fait trois, mais le troisième larron, un certain Richard, n'ayant aucune importance dans le récit, nous l'appellerons tout simplement le dégonflé, puisque quelques heures seulement avant de se lancer dans l'ascension qu'ils ont préparée tous les trois, Richard se ravise et déclare « David, vous ferez toutes les voix anglaises du récit, je traduirai. »
Well, this mountain is far too big. I think I'd rather stay here and shag a few locals while you risk your life up there.
Bon sang, cette montagne est bien trop grosse. Je vais plutôt rester ici et sympathiser avec quelques jeunes filles du coin pendant que vous risquez votre vie là-haut. C'est donc en duo que Simon et Joe s'attaquent au pic péruvien. La montée se passe plutôt bien, si tant est qu'on considère que des rafales de vent à plus de 150 km/h et une température de moins 30 degrés puissent être quelque chose de bien. Comparé à ce qui les attend, en tout cas, c'est vrai, c'est une matinée peinard au Spa Clarins du Sofitel des Sawira. Nos deux alpinistes arrivent au sommet sans trop de difficultés, un peu comme Stéphane, le temps de faire quelques photos, de s'auto-congratuler, comme savent si bien le faire les Anglais.
We did it, Simon. Well said, Joe.
Et c'est déjà l'heure de la descente.
God damn it, Joe, I'm starting to be hungry. Let's find a pub.
Je commence à avoir faim, trouvons vite un pub, se dit Joe. Mais voilà, nos rosbifs aventureux ne le savent pas encore, mais redescendre de cette montagne va s'avérer bien plus dur que d'y monter. Les conditions météo se dégradent, un épais brouillard se lève. Très vite, on n'y voit pas plus que dans le cul d'une vache.
Oh my God, Simon, we don't see more than a cow's ass.
Oui, j'ai tenu à être très très précis sur la restitution des dialogues, c'est très important pour le récit. Soudain, une avalanche, les voilà piégés au cœur du glacier. Puis voilà que Joe tombe. La corde se tend, c'est Joe. La corde se tend puis disparaît. Joe est mort ? Non. Il est en vie, mais il souffre le martyr 50 mètres plus bas. Je suis tombé tête la première. Ma jambe droite était bloquée en arrière. Mon tibia avait frappé dans mon fémur et le choc avait continué jusqu'à mon articulation du genou. J'avais déchiré mon ligament croisé antérieur, endommagé mon nerf fibulaire et détruit le cartilage des deux ménisques. Je m'étais aussi fracturé le talon et la cheville. La douleur était atroce. Ah bon ? Quelle chochotte ! Ah, ces Anglais, Stéphane, ils sont en sucre !
Come on, you're not in sugar !
Lui crie l'autre. Joe tente alors de se reprendre. Dans son livre, il raconte qu'il tente d'apaiser sa douleur en se frappant la tête dans la neige. Spoiler alerte, ça ne fonctionne pas. Là, c'est l'heure du premier choix pour Simon. Soit il laisse son pote en kit crever, soit il va le sauver quitte à y laisser sa propre peau. Il choisit la deuxième option, rejoint les clopés, rattache la corde et repart en le traînant derrière lui. La tempête, hélas, gagne en intensité et lors de l'ultime descente en rappel qui doit les mener au camp de base, la corde se tend à nouveau. Ce con de Joe est encore tombé. Au-dessus de lui, Simon tient la corde de toutes ses forces, mais le poids de Joe, qui a visiblement abusé des kidney pie avant de partir, l'entraîne vers le bas. Que faire alors ? Le dilemme est terrible car vous connaissez le problème avec le froid. On se retrouve souvent...
avec un tout petit pénis au repos.
Non, mais non, non. Là, à l'instant T, c'est pas le problème qui chiffonne Simon. Non, non, c'est le dilemme de savoir s'il sauve sa peau. Et pour ça, il doit couper la corde et condamner son ami. Soit il décide de jouer les héros et de se sacrifier avec lui. Stéphane, projetons-nous un petit peu. Nous sommes tous les deux en pleine montagne, en expédition, tous les deux en cordée. Vous portez une combinaison en jacquard. Je suis au fond d'un ravin en mille morceaux. Que faites-vous à la place de Simon ? Mourir avec moi ou vivre sans moi, Stéphane ?
Bah, je vais d'abord essayer de vous sauver.
Mais comment vous allez faire ? Parce que vous ne pouvez pas tirer.
Non, mais je vais peut-être te couper la corde, aller chercher du secours et pour aller vous...
du Pérou. Oui, alors bon, bref. Simon, lui en tout cas, en termes d'une réflexion bouleversante, finit par couper la corde.
Vous voyez ?
Ce n'était pas une bonne décision, mais une décision pratique. Je ne pouvais pas me payer le luxe de l'aspect moral. C'est impossible lorsque vous faites face à des questions de vie ou de mort. Je ne vois donc pas mon acte comme un dilemme éthique. En contrebas, Joe, lui, n'a rien capté de tout ça. Il est dans un état de semi-conscience, shooté par la douleur, proche du délire. J'étais un peu comme dans le même état que David Castello-Lopez quand il attend son Uber sur le trottoir après une soirée trop arrosée. arrosé et qu'il croit qu'il est Robocop. Heureusement, Joe finit par se reprendre. Il se redresse péniblement, allume sa frontale et se met à chercher Simon.
Ouh, où êtes-vous ? On vous cherche partout.
Mais Simon ne répond pas. Peut-être est-il mort ? Ou l'a-t-il abandonné ? Ni l'un ni l'autre. Puisqu'au petit jour, rongé par la culpabilité, Simon cherche encore et toujours Joe, mais en vain. Accablé, à bout de force, il finit par reprendre sa descente et arrive au camp de base, où il retrouve Richard, qui lui est bien. Il est bien, Richard. Il est pépouze, il a rien branlé. On l'imagine bien en train de se faire dorer des chamallows autour du feu de camp. Simon casse assez vite l'ambiance en lui annonçant
« Stop eating marshmallows, you idiot. Joe is dead. »
« Fuck me !» répond Richard, qui en plus est vulgaire. En plus, c'est faux. Simon ne le sait pas, mais Joe est vivant. Miraculeusement vivant. Quoi qu'en 1000 morceaux, il va réussir à descendre. Il lui faudra 4 jours, mais il va y parvenir. 4 jours sans nourriture, avec une jambe cassée. Pour boire, il suce la neige. Un beau matin, il aperçoit un truc rouge, c'est un feu. À côté du feu, que voit-il ?
Une tente !
Une tente, oui ! Il crie à l'aide. Bientôt, des bras le saisissent. Ce sont ceux de Simon. Joe est sauvé. Et vous savez ce qu'il dit à Simon ?
T'es qu'un pignouf.
Non, je ne t'en veux pas, Simon, tu as bien fait. Un mois plus tard, de retour en Angleterre, Simon se fait assassiner par la presse qui fait les gros titres avec l'histoire des copains de cordée. Tout le monde y va de son analyse. Simon est décrit comme un criminel, un déserteur. Eh bien, Joe prend sa défense. Dans son livre, il écrira « C'était irrémédiable, nous allions mourir. Simon s'est alors accroché à un espoir de survie. Est-ce que j'aurais moi aussi coupé la corde ? Si j'avais été dans la même situation que Simon, ça ne fait aucun doute. Tout est bien qui finit bien. » Et à ce jour, Stéphane, Simon et Joe sont toujours vivants, toujours amis. Et pour cette chronique, je les ai contactés. Je leur ai notamment demandé s'ils pensaient que vous, Stéphane, vous auriez coupé la corde ou qu'au contraire, vous auriez tout fait pour me sauver. Simon m'a très clairement répondu.
Burn, he would have cut the rope and leave you like a dog. 100% sure.
Oh, Burn! Oh, il aurait sacrifié sa vie pour venir à votre rescousse. C'est ce que je veux comprendre de cette phrase. Merci Stéphane, je savais que je pouvais compter sur vous. Vous êtes un vrai ami.
Je crois que la traduction est assez fausse.
Oui, c'est vrai, probablement. Vous m'auriez laissé comme une merde, c'est ça ?
Non, mais je ne l'aurais jamais fait. Merci, Mathieu.